Bienvenue au service francophone vers l'Afrique, tous les soirs à 18h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonsoir à tous, Le Monde aujourd'hui, édition du mardi 18 mars 2014, en direct du studio 13, ici à Washington. Timothée Dounangmaï et Morgane Guiriek. Bonsoir Morgane.
Bonsoir Timothée, bonsoir l'Afrique.
Au sommaire ce soir, l'Ukraine et les pays du G7 condamnent l'annexion de la Crimée par la Russie. Le point sur les dernières violences en RCA.
Des tirs à l'arme légère et parfois lourde, ainsi que des explosions de grenades ont secoué les quartiers de kilomètre 5, Petit-Vaux et 92 logements.
Le président Ibrahim Boubacar Keïta poursuit sa visite à Mopti dans le nord du Mali. Et puis reprise de cette exploration pétrolière à Madagascar.
Si on découvre aujourd'hui du pétrole, beaucoup de techniciens estiment que le pays n'est pas encore prêt au niveau des législations, de l'éducation de la population, au niveau de la stabilité politique.
Explosion sur le plateau du Golan, territoire occupé par Israël, près de la frontière syrienne. Et comme toujours en fin d'émission, nos pages sport et musique. Pour l'instant, le journal.
Les autorités ukrainiennes et les pays du G7 ont condamné la décision de la Russie d'annexer la péninsule ukrainienne de la Crimée. Des précisions de Jean-Roger Billon.
Un mois après la chute du président ukrainien Viktor Yanukovych sous la pression des manifestations populaires, le président Vladimir Poutine a signé aujourd'hui un traité rattachant la Crimée à la Russie. Dans un discours au Parlement russe, il a condamné les dirigeants ukrainiens ayant remplacé Yanukovych, les accusant d'avoir abusé des droits des russophones d'Ukraine.
Чтобы понять, почему был сделан именно такой выбор.
Il suffit de connaître l'histoire de la Crimée, de connaître ce qu'était et est la Russie pour la Crimée et la Crimée pour la Russie, a déclaré le président russe aux parlementaires de son pays. Un porte-parole militaire ukrainien que cite l'agence EPI affirme qu'un soldat ukrainien a été tué dans une base de Crimée prise d'assaut par des hommes armés. D'autres sources signalent des incursions de soldats russes ou d'hommes armés appuyés par la Russie dans l'est de l'Ukraine près de la Crimée. Le premier ministre intérimaire ukrainien Arseniy Yatsenyuk a fait état de son côté de preuves convaincantes que les services spéciaux russes organisent des troupes dans l'est de son pays. Le vice-président américain Joe Biden est en Pologne pour des discussions avec les alliés des États-Unis dans la région au sujet de l'incursion militaire russe en Crimée.
En RCA, la situation est toujours tendue à Bangui. Des tirs à l'arme automatique et des explosions de grenades ont encore secoué aujourd'hui plusieurs quartiers sud de la capitale. De centaines de familles ont fui leur domicile du 6e arrondissement suite à des rumeurs d'une possible attaque des musulmans armés dans le secteur. Le point avec Georges-Léonard Sagnou.
La tension a été particulièrement vive aujourd'hui dans les 3e, 5e et 6e arrondissements de Bangui. Protestant contre les multiples tueries de ces derniers jours au kilomètre 5, des jeunes appuyés par des anti-balaka ont érigé plusieurs barricades sur l'avenue Koudoukou. Malgré l'intervention des forces africaines, les protestataires ont gardé leur position. En début d'après-midi, des tirs à l'arme légère et parfois lourde, ainsi que des explosions de grenades ont secoué les quartiers de kilomètre 5, Petit-Vaux et 92 logements. Certaines sources parlent d'affrontements entre des soldats burundais de la MISCA et des anti-balaka. D'autres rapportent que les tirs proviendraient des musulmans armés voulant se défendre contre les attaques des anti-balaka. Par ailleurs, des femmes musulmanes réfugiées à la mosquée centrale de Bangui sont montées au créneau dans la matinée. Elles ont dénoncé les multiples tentatives d'attaque de leur site par des miliciens anti-balaka et ont demandé à être transférées hors du pays.
Pendant ce temps, ici à Washington, suite de la visite des leaders religieux centrafricains, on fait le point avec Nicolas Pineau.
Oui, les trois leaders religieux centrafricains ont continué à prêcher la paix ce mardi, notamment lors d'une conférence, mais aussi devant les représentants du département d'État ici à Washington.
Deux priorités pour les trois leaders religieux, musulmans, protestants et catholiques centrafricains. Tout d'abord, la saison des pluies qui se profile en Centrafrique. Ils sont inquiets notamment pour tous les paysans qui n'ont pas pu cultiver leurs champs et qui n'ont plus d'outils. Et c'est une vraie urgence qui doit être absolument traitée de manière très rapide selon les trois Centrafricains. Et puis l'autre priorité, c'est évidemment éviter la partition du pays. selon eux, on observe un phénomène dangereux, hein, un transfert des populations musulmanes vers le nord-est du pays, alors que selon les trois hommes, les musulmans peuvent vivre de façon pacifique dans l'ensemble du pays. Ils rencontreront tout à l'heure des représentants du Conseil national de sécurité et ce sera évidemment à suivre sur la Voix de l'Amérique.
Visite d'Ibrahim Boubacar Keïta à Mopti dans le nord du Mali. Le président malien doit rester 72 heures dans la région. Aujourd'hui, il a inauguré l'hôpital Sominé Dolo de Mopti, correspondance de Mamadou Bokoum.
Au deuxième jour de sa visite dans la région de Mopti, le président de la République a procédé à l'inauguration de l'hôpital Sominé Dolo. Bâti sur une superficie de 5 hectares, le nouvel hôpital est situé à Sévaré sur la route de Gao. Avec ses 133 agents et le matériel sur place, l'établissement répond aux critères d'hôpital de deuxième niveau selon des spécialistes. Il doit desservir, en plus de la région de Mopti, les régions de Tombouctou, Gao et Kidal. Le chef de l'État a saisi l'occasion pour rendre hommage à l'ancien président Amadou Toumani Touré qui a planté cet arbre dont on cueille les fruits aujourd'hui. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République.
Chers amis, on dit chez nous qu'il arrive que l'on prenne le frais sous un arbre que l'on n'a pas planté. Cet arbre-là a été planté par un homme fils de la région qui m'a précédé en cette charge. Quand le nom du pays, le nom de la patrie, je lui rends ici hommage.
Dès l'entame de sa visite, le chef suprême des armées a inauguré une stèle dédiée aux morts pour le Mali au Kamba Lobobo Karibari de Sévaré. Ibeka a aussi décoré 15 militaires qui se sont distingués lors de la reconquête du pays. Le président de la République restera encore deux jours à Mopti pour d'autres activités à Banyagara, Bankas, Koro et Djenné. Mamoudou Bokouma Mopti pour la Voix de l'Amérique.
Violence à Boulot Bourdé, dans le centre de la Somalie. Un attentat suicide a déclenché des combats entre insurgés et forces pro-gouvernementales la nuit dernière. Lionel Gaïma nous en dit plus.
Un kamikaze conduisant une voiture bourrée d'explosifs a foncé sur un hôtel utilisé par la MISOM et des responsables militaires somaliens. Une attaque suivie de tirs nourris et d'explosions. Les islamistes d'Al-Shabaab ont tué plus de 6 soldats de la mission onusienne. Des Djiboutiens, un important commandant militaire somalien, figure parmi les victimes. Un officiel local affirme par ailleurs que la majorité des assaillants ont été tués ou capturés. Al-Shabaab a perdu le contrôle de Boulo Bourdé jeudi dernier au profit des forces gouvernementales et africaines de l'AMISOM. Située à 200 km au nord de Mogadiscio, cette ville servait de centre d'approvisionnement à l'organisation terroriste somalienne. Pendant des années, ces insurgés islamistes ont contrôlé une grande partie de la Somalie. Mais ils ont finalement été chassés des grandes villes par les forces de l'Union africaine et de l'armée somalienne. Les forces gouvernementales et de l'AMISOM ont intensifié leur offensive au cours de dernières semaines. Mais les terroristes poursuivent leurs attaques et ne se limitent pas aux frontières somaliennes. Le Kenya est régulièrement la cible d'attentats et d'enlèvements signés Al-Shabaab. En 2011, ce pays voisin a envoyé des soldats en Somalie.
Sachez aussi que deux hommes en possession d'explosifs ont été arrêtés hier dans la ville portuaire de Mombasa, au Kenya. La police pense que ces bombes artisanales allaient peut-être servir lors d'attentats. Un téléphone mobile qui aurait pu être utilisé comme un détonateur a été également trouvé. D'après les autorités, ces hommes sont d'origine somalienne. Ils sont soupçonnés d'être membres d'Al-Shabaab.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Enquête sur l'avion disparu de Malaysia Airlines. Plus le temps passe, plus la zone de recherche s'étend. Les fouilles couvrent désormais plus de 4 millions de kilomètres carrés. C'est ce qu'annoncent les autorités maliennes. Le ministre malaisien de la Défense appelle à une plus grande coopération internationale. Nathalie Barge nous en dit plus. Bon, eh bien, peut-être qu'on aura dans ce reportage un peu plus tard, Timothée.
Un peu plus de précision. Explosion sur le plateau du Golan, territoire occupé par Israël, près de la frontière syrienne. L'armée israélienne a fait état de plusieurs soldats blessés. Tsahal n'a donné de détails, n'a donné aucun détail, mais d'après les médias israéliens, une bombe aurait frappé une jeep militaire lors d'une patrouille. Les soldats auraient riposté par des tirs d'artillerie.
Et puis, nouveau cycle de négociations sur le nucléaire iranien. L'Iran et les 6 puissances mondiales ont entamé les discussions aujourd'hui à Vienne en Autriche. Elles devraient prendre fin demain soir. Cette rencontre intervient dans un contexte de vives tensions entre les nations occidentales et la Russie en raison de la crise ukrainienne.
Et puis, levée de l'état d'urgence en Thaïlande, la mesure avait été mise en place il y a 2 mois pour faire face aux manifestations antigouvernementales. Des protestations sont en recrudescence. L'état d'urgence sera donc remplacé par la loi sur la sécurité intérieure. Il s'agit certes d'une autre loi spéciale, mais elle sera moins sévère.
Enfin, ici aux États-Unis, le gouvernement lâche du lest sur Internet. Les autorités abandonnent une partie du contrôle de la structure de la toile, notamment l'attribution de noms de domaine. C'est ce qu'annonce le département du commerce.
La National Telecommunication and Information Administration gère actuellement les modifications de la base de données des noms de domaines dits de premier niveau, parmi lesquels .com et .net, rappelle l'agence Reuters. Selon le département du commerce, l'exercice de ces tâches sera transmis à une communauté internationale multipartite sous l'égide d'une ONG, la Société pour l'attribution des noms de domaines et des numéros sur Internet, ICANN. Le président Barack Obama et les dirigeants européens ont exprimé le souhait qu'Internet soit le plus sûr possible, tout en étant gouverné par une multitude de pays.
Voilà pour le journal. Au micro, Timothée Donangmaï et Morgan Guiriec en direct de Washington. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur la Voix de l'Amérique. Le conseiller à la sécurité nationale du Nigeria a dévoilé une nouvelle stratégie non militaire pour lutter contre l'insurrection islamiste qui fait des milliers de morts depuis 4 ans et demi. Elle ne remplacera pas les efforts militaires contre la secte radicale Boko Haram, mais arrive en complément. Le point avec Jean-Roger Bion.
Il y a 10 mois, le Nigeria lançait sa plus grande offensive militaire contre les insurgés de Boko Haram, imposant l'état d'urgence dans 3 états du nord du pays. De nombreuses villes ont été rapidement mises au pas, mais la violence a continué dans les campagnes. Plus récemment, des villes du nord ont été de nouveau attaquées. 700 personnes ont été tuées cette année seulement, selon Human Rights Watch. Dans cette atmosphère de violence croissante, le conseiller à la sécurité nationale du Nigeria, Sambo Dasuki, affirme que le gouvernement va adopter une approche douce pour lutter contre le terrorisme, en plus des efforts militaires.
My approach has been to understand the problem in order to apply the appropriate solutions.
Mon approche est de comprendre le problème afin d'appliquer les solutions appropriées. Ce que nous avons appris, c'est qu'il n'y a pas un chemin unique qui mène au terrorisme. Les voies qui conduisent au terrorisme sont plutôt légion, souvent compliquées.
La pauvreté, l'injustice sociale, l'isolement et le sectarisme font partie des causes de l'insurrection, affirme cet expert. Pour lui, la réforme des prisons, le développement économique, les pourparlers de paix et l'éducation du public font partie des solutions. Sous ce plan, il propose que 2 prisons soient transformées en centres de déradicalisation. La prochaine étape, selon Dasuki, est de former le personnel.
L'initiative nécessitera un renforcement substantiel des capacités du personnel pénitentiaire dans des domaines tels que la psychologie, le sport et la thérapie artistique, l'instruction religieuse et la formation professionnelle. Toutes choses qui devraient être bénéfiques.
Un autre principe clé de l'approche en douceur pour lutter contre le terrorisme, assure Sambo Dasuki, est la réforme économique dans le nord du Nigeria, où la plupart des gens vivent dans une pauvreté extrême qui alimente la révolte. Sous un autre angle, l'insurrection peut être considérée comme la cause de la pauvreté dans la région. Gbenro Olayugbe, un responsable de la sécurité au sein de l'organisation de lutte contre la pauvreté Action Aid, conseille que l'approche douce envisage une meilleure sécurité sur le terrain.
Si les gens sont dans un environnement d'insécurité, l'économie s'effondre, les droits sont bafoués et la paix fait son intrusion. Je pense que la meilleure chose à faire est de stabiliser d'abord le pays.
L'Organisation des Nations Unies indique que l'insurrection de Boko Haram prend des allures de plus en plus monstrueuses, notant que près d'1 million de personnes ont fui leur maison et que des dizaines de milliers d'autres ont été déplacés vers les pays voisins. De nombreux agriculteurs ont également abandonné leurs champs, toutes choses qui menacent la sécurité alimentaire.
Les pays du bassin du lac Tchad vont rendre opérationnelle une force mixte de sécurisation. Elle sera chargée de lutter contre les trafics en tout genre, le terrorisme et les attaques transfrontalières dans la région. Une décision prise aujourd'hui à Yaoundé au Cameroun. Les précisions de Michel Joseph.
Le conflit en République centrafricaine et l'insurrection de Boko Haram au Nigeria affectent les pays voisins qui ont noté un afflux de réfugiés, mais aussi d'armes. Pour répondre à cette situation, les ministres de la Défense et les chefs d'état-major des armées des six pays du bassin du lac Tchad ont donné leur feu vert à la force mixte multinationale de sécurisation. Ils ont décidé que le mandat initial de cette force sera de mener des patrouilles dans la région du lac Tchad contre les trafiquants d'armes et les terroristes présumés pour faciliter la libre circulation des biens et des personnes. Le ministre camerounais de la Défense, Edgar Alain Mbengo.
Cette réunion devrait représenter l'électrochoc à partir duquel le bassin du lac Tchad pourra maîtriser tous les défis qui relèvent de la sécurité pour envisager plus sereinement l'exercice de ses missions. Les enjeux, c'est pour la doter de moyens qui lui permettent de relever le grand défi de l'insécurité qui est prégnant sur toute l'étendue de la commission du bassin du lac Tchad.
Le Cameroun est particulièrement affecté par le chaos en République centrafricaine et les multiples attaques de Boko Haram dans le nord du Nigeria. Le secrétaire exécutif de la commission du bassin du lac Tchad, Sanusi Imran Abdullah, a annoncé que la nouvelle force aura son quartier général à Baga, dans l'état nigérian de Borno. Baga est l'institution ou la ville qui est entièrement préparée pour accueillir ce quartier général. Comme vous le savez, des bâtiments existent, des infrastructures existent et il n'est pas nécessaire d'en bâtir, a-t-il expliqué. Borno est l'un des trois États où les autorités nigérianes ont décrété l'état d'urgence en mai dernier et déployé des milliers de soldats dans une tentative d'écraser l'insurrection de Boko Haram.
À Madagascar, l'exploration pétrolière de nouveau à l'agenda après la crise politique. Le nouveau président du pays rencontrera des responsables du géant pétrolier américain ExxonMobil en vue de nouveaux travaux d'exploration pétrolière sur la Grande Île. Eri Rajuaniri Mampiana a annoncé hier à New York, après son tête-à-tête avec le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon, dans le cadre de sa tournée ici aux États-Unis, une tournée placée sous le signe de la relance économique à Madagascar et qui le conduira aussi à Washington. Sur la reprise de cette exploration pétrolière d'Exxon, après une absence de 4 ans, Jacques Aristide a contacté le journaliste Maefa Rakotomolal du service économie de l'Express de Madagascar.
Ça signifie pour Madagascar que ExxonMobil va relancer ses activités de prospection à Madagascar. Parce que ExxonMobil, en 2008, était parmi les compagnies qui est arrivée à un stade de prospection le plus avancé, notamment sur son bloc situé au large de Majenga, qui est au nord-ouest de Madagascar, qui était déjà au stade du forage. Donc à l'époque, ExxonMobil n'attendait plus, d'après les informations à l'époque, que la disponibilité de la plateforme pétrolière qui était capable de forer en haute mer. Donc si ExxonMobil a renoué contact avec les autorités, les nouvelles autorités malgaches, ça veut dire que le géant pétrolier américain va relancer ses activités à Madagascar qui étaient mises en veilleuse pendant la crise, tout simplement parce que le permis d'ExxonMobil a été arrivé à terme et qu'il fallait le renouveler.
Justement, j'allais vous demander cette exploration pétrolière, qu'est-ce que cela pourrait apporter à la Grande Île ?
Madagascar, pour l'instant, n'est pas encore un pays pétrolier. Mais on sait qu'il y a du pétrole à Madagascar, parce que même dans certaines régions, il y a des endroits où les gisements de pétrole affleurent le sol. Donc c'est-à-dire qu'on peut regarder des grès bitumineux, c'est-à-dire de l'huile lourde qui affleure, mais il faut déterminer la quantité. Et puis à Madagascar, hein, l'histoire de la prospection pétrolière, elle date des années 60. Hein. Donc il y a des régions où on sait qu'il y a du pétrole, mais on ne sait pas la quantité. Premières informations ont indiqué que c'était du pétrole, c'est du pétrole, qu'il faut aller chercher loin, qui coûte cher, dont l'exploitation coûte très très cher. Et donc voilà pourquoi jusqu'au milieu des années 2000, les recherches étaient plutôt bienveilleuses. Mais ce qui a changé la donne pour Madagascar, c'était la flambée du cours des matières premières au milieu des années 2000. Comme vous savez, le pic en 2008 a atteint 146 dollars le baril. Donc, à ce moment-là, le pétrole de Madagascar devenait important pour les investisseurs. pour les compagnies de les grandes compagnies pétrolières. Voilà pourquoi, à partir de 2006-2007, beaucoup de compagnies, des majors, sont venues relancer le projet de prospection à Madagascar. Donc, au jour d'aujourd'hui, Madagascar n'est pas encore un pays producteur de pétrole, mais le pays mise beaucoup sur les travaux de recherche justement des grandes compagnies majeures comme ExxonMobil.
Notre confrère Mahefa Rakoto Malal du service économie du quotidien L'Express de Madagascar, joint à Antananarivo.
Cap sur le Sénégal où une loi anti-tabac vient d'être adoptée. Il ne sera désormais plus possible de fumer dans les lieux publics, mais des coins fumeurs seront toutefois réservés aux usagers de la cigarette. Alors qu'en pensent les Sénégalais? La réponse dans ce reportage de Dinaba Seydouba.
Il est maintenant formellement interdit de fumer partout au Sénégal. La loi anti-tabac a été votée à l'Assemblée nationale et si elle est promulguée, des espaces fumeurs seront érigés. Mais cette loi est loin de plaire aux adeptes de la cigarette. Beaucoup pensent que l'État veut copier l'Occident sur cette question. Jean-Bertrand Fall.
On n'est pas en Amérique. En Europe, les gens ils sortent en café, ils sont dans des lieux, les gens ils vivent ici. Les lieux publics, c'est les maisons. Hein? Donc ils ont essayé de tropicaliser une loi et je crois que ça ne marchera pas.
Barthélémy Ngom, un fumeur, se sent frustré par cette loi. Il ne peut pas concevoir qu'on lui interdise de fumer dans la rue.
Je conçois pouvoir déranger à l'intérieur s'il y a des enfants ou des non-fumeurs. Après, en extérieur, l'air il est tellement pollué, surtout en ville, que franchement...
Ça dérange pas.
Bah, moi, personnellement, c'est limite si ça ne me dérange pas qu'on vienne me dire « fume pas dehors ». Enfin, je veux dire, après, il y a la liberté individuelle et en extérieur, c'est quand même dans la limite du respect et puis de ne pas déranger les autres.
Dans notre pays, des endroits réservés aux fumeurs, on n'en trouve pas souvent dans les endroits publics. Ce restaurant situé en centre-ville en est l'exception. Là-bas, tout est bien pensé pour préserver les non-fumeurs. Walid est le gérant de ce restaurant.
On a des salles fermées ici pour les gens qui ne se portent pas les cigarettes et les tabacs. On a des terrasses, tout ça, il y a des cigarettes. C'est surtout les gens qui ont des enfants, des trucs comme ça, ils n'acceptent pas les cigarettes ou le tabac, ou bien ils l'aiment pas. On les fait dans la salle non fumeur. Et en haut, il y a les cigarettes, parce que c'est. Il y a les chichas qui passent en haut, les tabacs, tout ça.
Et les gens respectent?
En général, oui, ils respectent.
La liberté des fumeurs doit être respectée, celle des non-fumeurs également. Une fois promulguée, fumer hors des endroits réservés sera sévèrement puni par la loi. Bien à Maseïdouba Dakar, pour la Voix de l'Amérique.
Jacques Aristide avec vous, Washington Forum ce jeudi, prix des médicaments en Afrique et la polémique à Pretoria autour de la réforme des brevets en vue de fabriquer des médicaments génériques. L'industrie pharmaceutique évoque ses lourds investissements dans la recherche. Vos commentaires sur la page Facebook de Washington Forum. Rendez-vous donc ce jeudi à 19h10 sur la VOA.
Et maintenant, les témoignages des 100 citoyens journalistes en RDC. Je vous rappelle que leurs messages, photos et vidéos sont sur Facebook et sur lavoixdelamérique.com.
Miro Guinestor, citoyen journaliste à Voix de l'Amérique, à Kisangani. 79 millions de dollars américains, c'est le coût du financement d'un projet dans les provinces du Nord et Sud-Kivu et celle de la province orientale, a révélé à l'issue d'une audience avec le gouverneur Jabba Manissa, le directeur de la Banque mondiale en charge des opérations en RDC, M. Stack Wayuru. Selon ce dernier, le projet pour le relèvement de ces trois provinces de l'Est du pays comprendra trois composantes, à savoir les groupements des communautés pour leur accès aux services sociaux de base, la création d'emplois des jeunes et le renforcement des capacités des communautés à se prendre en charge pour leur amélioration de leurs conditions existentielles. Afin de bien cerner les besoins réels des communautés intéressées par les 10 projets, Jabba Manissa Saïdi a sollicité l'implication des pouvoirs publics provinciaux.
La Voix de l'Amérique s'associe à 100 citoyens journalistes en République démocratique du Congo. Grâce à des téléphones portables, ces observateurs seront les témoins de tout ce qui se passe au Congo. Retrouvez leurs messages, photos et vidéos sur la page Facebook 100 citoyens journalistes et sur notre site www.lavoixdelamérique.com. Mais aussi leurs témoignages tous les jours dans nos émissions destinées à l'Afrique centrale.
C'est maintenant l'heure du sport. Alors Timothée, le mondial de football des cadets se poursuit au Costa.
Et ce soir, le Costa Rica affronte l'Italie et le Venezuela joue contre la Zambie. Le Ghana affronte l'Allemagne. La Corée du Nord affronte le Canada.
Et le classement après la première journée?
Eh bien, Morgan, le Venezuela et l'Italie dominent le groupe A avec 3 points chacun. La Zambie et le Costa Rica, 0 points. Dans le groupe B, le Ghana est en tête avec 3 points, suivi de l'Allemagne et du Canada, 1 point et 0 points pour la Corée du Nord. Groupe C, le Japon, 3 points. La Nouvelle-Zélande et le Paraguay, 1 point et l'Espagne, 0 point. Et dans le groupe D, le Mexique et le Nigeria ont 3 points chacun. La Chine et la Colombie, 0 points.
En NBA, l'ancien entraîneur Phil Jackson est de retour chez les Knicks de New York, le club de ses débuts.
Et oui, Morgan Jackson qui a remporté 11 titres de champion de la NBA en tant qu'entraîneur avec les Bulls de Chicago et les Lakers de Los Angeles notamment, a en effet entamé sa carrière professionnelle à New York. Et avec ce club, il a remporté 2 titres de champion de la NBA dans les années 70. Il revient maintenant comme président du club.
C'est maintenant l'heure de notre page musicale et ce soir, nous rendons hommage à Lapiro de Mbanga. Le chanteur camerounais est mort dimanche à New York.
Mimbawi, du regretté Lapiro de Mbanga, qui nous a prématurément quittés dimanche. Il est décédé donc à Buffalo, dans l'État de New York. De son vrai nom, Pierre-Roger Lambo-Sanjo, il avait fait irruption sur la scène musicale camerounaise vers la fin des années 80, début 90. Il connaîtra, Morgan, un franc succès avec son rythme accéléré très dansant et aussi son choix comme langue d'expression du pidgin, un mélange de français, d'anglais et aussi de langue douala. Lapiro s'est érigé en porte-parole de la jeunesse, mettait un point d'honneur à défendre les défavorisés, les désœuvrés, les vendeurs à la sauvette qu'on appelle au Cameroun les sauveteurs. Et dans la foulée, il s'est lancé dans la dénonciation de tous les maux sociaux et politiques du pays. Lapiro attribuera son séjour en prison de 2008 à 2011 à cet activisme. Et après sa libération, il s'était réfugié ici, aux États-Unis, en 2012. Lapiro de Mbanga, qu'on écoute ici dans Mimbawi.
Man for tombo, ma on don grand.
Voilà, Morgan Lapiro, no make error. Era Fombutuku, Nadame Fondos.
Voilà,
ce sont là les mots du regretté Lapiro qui nous a quittés malheureusement. La Voix de l'Amérique, Le Monde aujourd'hui, c'est tout pour cette édition. Timothée Donangmaï en votre compagnie avec Morgane Guiriec. Nous vous retrouvons dans une demi-heure.